Épilogue. Il ne faut rien revoir de ce qu'on a aimé. J'eus un jour la faiblesse de chercher témérairement à revoir les Jardies, où tendeur charmante, ineffaçable, s'était écoulée pour moi sous le toit bâti par Balzac. Je croyais que mes souvenirs avaient besoin de se retremper à leur source. Je me disais qu'ils exigeaient ce dernier pèlerinage, dans l'intérêt de l'exactitude locale que tout lecteur biographique a le droit d'exiger de l'historien biographe. Surtout de l'historien d'un homme lui-même si exceptionnellement exact dans ses 1000 peintures immortelles. Que ne m'étais-je pas dit pour m'imposer le voyage au Jardy ? Eh bien, j'avais tort d'être si pieux envers cette fidélité contre laquelle, jusqu'ici, personne ne s'est élevé, dont personne n'a douté, si ce n'est moi. À vrai dire aussi, je me mentais un peu dans cette occasion. J'avais plus besoin de voir, pour mon désir personnel, la propriété des jours heureux de Balzac que pour rectifier, à plusieurs années de distance, les couleurs étendues sur la toile de ma mémoire. Non, il ne faut rien revoir de ce qu'on a aimé. Ni la mer natale où l'on s'est baigné autrefois, ni la maison paternelle, au coin calme ou bruyant du carrefour, ni la campagne, au pied de la colline, parcourue aux heures exaltées de la jeunesse, ni les pays lointains visités avec enthousiasme à 20 ans. Tout cela ne sert qu'à mouiller les yeux, à serrer le cœur, à faire trembler les lèvres. À quoi bon ? Les objets revus ne sont plus les mêmes. Vous non plus, vous n'êtes plus le même. Eux ne veulent pas vous reconnaître, et vous, vous les reconnaissez à peine. Vous avez beau leur dire, leur crier « C'est moi !» Ils vous disent « Qui ? Vous ?» La tristesse d'Olympio, ce magnifique cri poussé par Hugo, qui osa revoir, lui aussi. Cette tristesse s'enfonça tout entière de mon cœur et ne me quitta plus dès que j'eus posé le pied sur le seuil de la porte des Jardies. La porte était bien la même, mais vieille, vieille, fracassée, crevassée, peinte, repeinte, plusieurs fois repeinte. Les pilastres qui l'encadraient me montrèrent encore, sans doute, dans l'épaisseur de leurs pierres de taille, ces mots tracés en lettres noires, « Les Jardies ». Mais le noir avait glissé à demi hors des lettres, inscription d'un tombeau oublié. « Dans peu d'années, ce sillon noir aura entièrement coulé, me disais-je. Les pluies d'hiver, de l'hiver prochain, rendront ces lettres tout à fait blanches. » Et on ne lira plus rien dans la pierre. Plus rien. Et ces lettres qui formaient ce mot dont Balzac était si fier, « Les Jardies », auront disparu. Je sonnai à cette porte, mais pas tout de suite. Je mis quelques instants d'indécision, réfléchis à lever le bras, à saisir l'anneau de fer. J'allais entendre retentir un son dont je me souvenais tant. Je sonne, cependant. Ah, c'est le bruit d'autrefois, je le reconnais. Mais il est enroué, éteint, paresseux. Nous étions plus vives, jadis, ma gentillette sonnette, quand nous sonnions pour les créanciers. Vous n'êtes plus qu'une sonnette riche. Comme on me fit attendre pour ouvrir. Si longtemps attendre que je me surpris répétant machinalement la phrase sacramentelle qu'il disait aussi autrefois, ceux à qui l'on avait 1000 raisons pour ne pas ouvrir. Ils sont donc tous morts là-dedans. C'est que je n'avais pas vu une seconde petite affreuse porte bâtarde ouverte plus bas dans le prolongement du mur. Elle n'existait pas de mon temps, j'allais dire sous Louis XIV. Le jardinier s'était donné une porte. Il est vrai que la maison du jardinier était devenue une maison de maître. Malheur, tout le monde s'était donc enrichi au Jardy. Jamais Balzac n'eût souffert cette porte bâtarde à côté de la double porte seigneuriale à double marteau par où il entrait. Qu'aurait dit monsieur de Saint-Simon ? J'entrai toutefois, mais en soupirant, par cette porte plus que bourgeoise, un valet de chambre, le tablier blanc noué autour des reins, était venu m'ouvrir. « Que demande monsieur ? Monsieur veut-il acheter ou louer la maison occupée autrefois par monsieur de Balzac ?» La double question m'avait foudroyé. Je n'avais rien préparé. Je venais, voilà tout. Pourtant, j'aurais dû prévoir, la propriété était vendue ou louée, qu'il me serait demandé ce qui je venais faire. Ta ! La propriété étant vendue ou louée, qu'il me serait demandé ce que j'y venais faire. L'embarras imprévu où je tombais était à tout prendre, moins grand que si le pavillon n'eût été ni loué ni à vendre. Je répondis au valet de chambre « Je viens louer. Entrez alors, monsieur. » Un énorme chien grondait derrière la porte. Était-ce turc ? Le turc habitué à se taire devant le coup de sonnette suspect de créance ? « Quel âge a ce chien ? » demandai-je vivement au valet de chambre. « 2 ans. » « Ce n'est pas mon turc. Il serait bien plus âgé. » D'ailleurs, turc n'avait jamais été aussi gras. Et le valet de chambre me regardait et se disait sans doute en lui-même « Quel est donc ce monsieur qui veut louer les jardins et qui me parle de turc ?» Douleur sur douleur. « Voilà bien, me dis-je, le chalet dessiné, construit, tourmenté par Balzac, mais grand Dieu, comme ils l'ont embelli, les profanateurs, c'est plein d'escaliers. Et nous en avions si peu, vous savez. Ils ont même osé mettre dans la maison l'escalier qu'il avait suspendu au flanc du mur extérieur. Allez donc vous reconnaître dans une propriété où tout est maintenant en ordre ?» Cependant, je finis par me retrouver, une fois habitué au désagrément de toutes ces restaurations. Je courus alors de pièce en pièce, de chambre en chambre, de porte secrète en porte secrète, guidant mon guide, renversé de surprise devant tant de connaissances locatives. J'étais arrivé au comble, là où de Balzac et moi montions souvent pour respirer à plein poumon la campagne, les bois, l'horizon, la rivière et l'immensité. Ascension que nous exécutions d'ordinaire quand Balzac, dans un accès de mauvaise humeur, m'avait dit « Venez, allons cracher sur Paris !» C'est à cette hauteur qu'une autre déception, non moins poignante, m'attendait. Les jardis, que j'avais laissés chauves, dénudés, n'offrant que les pauvres petits arbustes frileux et grelottantes plantés par Balzac, sont masqués aujourd'hui par de véritables arbres, taillés en pyramide, ouvert en éventail, tranchant du cèdre, fier, élégant, vêtu à la dernière mode, ici de beaux tilleuls, là des vernis du Japon qui pourraient être reçus dans les plus beaux parcs, là des marronniers aussi gentlemen que ceux des Tuileries. Ah, où êtes-vous donc, allée de bitume et d'asphalte dont j'ai parlé dans le livre « Trop bien accueilli » qui a reçu mes premières confidences sur Balzac ? La bêche les a défoncés. Le gazon a couvert les endroits où avait coulé l'asphalte, et un art intelligent a soulevé ces terrains désordonnés qui se précipitaient jadis vers la route de Sèvres et les a presque mis de niveau. Ce n'est pas que la plante ait tout à fait disparu, un tel miracle était impossible, mais coupé en ceinture par le milieu, le terrain des jardins semble incliner beaucoup moins. C'est mieux, sans doute. Je ne me consolerai pas cependant de la perte de ces arbres, dont le plus haut ne parvenait jamais, du temps de Balzac, à cacher le dos tacheté de turc, poursuivant à cœur joie une poule. « Que mes arbres sont déjà beaux, » disait Balzac. « Ils m'empêchent de voir turc. » Illusion de propriétaire. Enfin, où j'avais laissé un champ d'asperges, je retrouvais un parc. Décidément, les jardins n'existent plus que dans le mirage rose du passé. Même les arbres, qui vous laissent en arrière. Je n'ai pas voulu me reposer un seul instant dans ce parc, m'arrêter sous leur ombrage insultant de beauté. Ce mot « ombrage » me rappelle ce que dit à Jules Janin, le jardinier des jardins, le jour où notre célèbre critique alla incognito les visiter. « mais oui, monsieur, monsieur de Balzac a du bien au soleil !» Il ne disait que trop vrai, le malheureux. Tout était au soleil, au jardin. Une espèce de brume mélancolique commençait à me voiler les yeux et l'âme au sommet de ce pavillon d'où je promenais ma vue sur tant de déceptions. J'avais le vertige. Je me sentis comme à pic sur les dunes du passé. Je me hâtai bien vite de descendre. C'est précisément en descendant que je remarquai ce que j'aurais pu, l'esprit moins agité, fort bien voir en montant. Et cela m'eût ménagé, cela m'eût adouci l'amertume du tableau dont je venais d'attrister mes regards. Tout le pavillon des jardins est meublé. Meublé ! J'y ai donc vu des tables, des armoires, des glaces, des pendules, des rideaux. J'étouffais. « Eh bien, me dit le valet de chambre, que pensez-vous, monsieur, du logement ?»« Les jardins. Un logement, vous dites ?»« S'il convient à monsieur de louer ce pavillon. Moi, j'ai parlé de louer. Ah oui, pardon. Quel est le prix ?» Le valet de chambre n'était pas du tout satisfait de son visiteur si distrait. 2 000 francs, me répondit-il, pour le reste de la saison. 2 000 francs, c'est un peu cher.
Mais non, monsieur, mais non, l'eau est très bonne ici.
Oh, si l'eau est très bonne.
Nous disons 2 000 francs?
Nous disons 2 000 francs, oui, monsieur.
Nous l'avions déjà dit bien des fois. Pour sortir de ce cercle, je me souviens fort à propos de l'objection salutaire que j'emploie toutes les fois que je me laisse surprendre par le chiffre d'un loyer dont je n'ai pas su prévoir l'agression. Je l'employais. « Y a-t-il écurie ?»
Le valet de chambre me répondit
« Non, monsieur, il n'y a pas écurie.
Le marché est impossible alors. »
« Mais, cependant, non, s'il n'y a pas écurie, c'est de toute impossibilité. »
S'il me dit « Il y a écurie », j'aurais demandé pour combien de chevaux, et s'il m'eût répondu « Pour deux », j'aurais dit « Il me la faut pour 6 ». Ma visite était finie. Je quittai les jardins, navré, noyé dans un abîme de tristesse, et me disant que je n'y remettrais plus les pieds de ma vie. Il me restait encore un quart d'heure à attendre le passage du convoi de Versailles pour Paris. Voici comment je l'employais. De l'intérieur même de la propriété, il m'avait été totalement impossible d'examiner dans quel état se trouvait, depuis plusieurs années que je l'avais perdu de vue, le fameux mur. Ce mur, cauchemar des rêves agités de Balzac, ce mur si souvent renversé, si souvent rebâti. Un assez vaste circuit était à décrire en passant par la route même de Ville-d'Avray pour arriver sous ce mur à jamais historique. Malgré la chaleur, une chaleur d'orage fort pénible, je traçai ce détour peu pourvu d'ombre et j'arrivai au mur. Nous nous reconnûmes, je crois, car chaque pierre mise dans mon temps semblait me dire « On nous croit bien solides, mais gare un de ces hivers !» Et en effet, mais je n'ai plus le droit de faire des réflexions sur le plus ou moins de fixité de tous ces grès, autrefois mes amis. Nous n'en rîmes pas moins avec discrétion jusqu'au moment où l'un d'eux, remuant dans son alvéole de plâtre, m'indiqua, par cette diversion, un écriteau que je n'avais pas aperçu. Je lus, à travers un brouillard de larmes, « Les jardins, ancienne propriété de M. de Balzac, à vendre ou à louer. » La désagréable trompette du chemin de fer m'appelait. « Adieu, séjour le plus triste, le plus accablant de tous, non pas seulement parce que celui que nous aimions tous n'y est plus, mais parce que d'autres y sont. » La désagréable trompette du chemin de fer ne m'avait jamais paru si agréable à entendre. « Vite, 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 Paris, où il y a 17 000 fiacres, 2 000 omnibus, 27 théâtres et 1 200 000 égoïstes qui vous empêchent de penser à autre chose qu'à vous garer des roues, qu'à choisir entre tous ces spectacles celui qui vous enlèvera le plus vigoureusement à vos préoccupations, qu'à vivre au jour le jour, sans souci de ceux qui ne sont plus. Est-ce qu'ils ont jamais été ?